Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés se chercher. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
On devrait fonder une chaire pour l'enseignement de la lecture entre les lignes. C'est signé Léon Blois. Bonjour, vous êtes bien à l'émission Un livre découvert. C'est Clotilde Seille et ses invités qui vous accompagnent.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, la table des matières est autour de la table ou par téléphone. Je commencerai par accueillir Suzanne Vida, abonnée du SQLA. On va s'entretenir ensemble d'ici quelques secondes. Ensuite, l'invité spécial du jour, c'est Normand Baillargeon. Bonjour Normand, qui est déjà à mes côtés. J'ai aussi à ma droite quelqu'un dont vous connaissez bien la voix parce qu'elle a longtemps été employée et elle est aussi bénévole, toujours en lecture. De l'autre côté, elle continue de lire des livres, c'est Isabelle Falardeau. Ça va bien, hein?
Oui, ça va bien, bonjour.
Et puis, il y aura le classique de la semaine. Aujourd'hui, Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Il y aura des extraits d'un livre à découvrir. Et ce sont les épices du monde aujourd'hui, des saveurs à découvrir, lus par Michel Laval. Et nous parlerons de Margaret Atwood, qui vient de sortir le petit dernier d'une trilogie complètement apocalyptique et complètement déjantée. Et enfin, bien sûr, pour finir l'émission, il y aura quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Madame Vida, Suzanne Vida.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien vous-même ?
Je vais très très bien, je suis très heureuse parce que j'accueille à cette émission une nouvelle voix. C'est la première fois que vous participez à cette émission Un livre découvert pour nous faire partager une de vos lectures. Êtes-vous une grande dévoreuse de livres audio, Suzanne ?
Très grande, très grande. En moyenne, je crois que je lis entre 120 à 150 livres par année.
Ah là là !
Ça dépend, bien sûr, de la quantité de pages.
Oui, bien sûr.
Quand c'est des petits livres, ben, ça arrive plus proche du 150. Là, je suis rendue justement le numéro 132 cette année.
Oh là 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 là!
Oui.
Est-ce que vous y allez dans tous les genres?
Dans tous les genres, mais peut-être un peu moins dans le genre fantastique, okay. Un peu moins dans l'horreur, science-fiction, peut-être un peu moins. À ce niveau-là...
Est-ce que la philo vous intéresse?
Oui, la philo m'intéresse. Je pense que c'est plus les romans historiques qui me tiennent à cœur.
OK. Alors, je voudrais que vous nous présentiez ce livre aujourd'hui que vous désirez partager avec nos auditeurs. Je vous laisse le soin d'en donner le titre et son auteur.
D'accord. Donc, c'est un livre que j'ai lu au mois d'avril dernier. Ça s'appelle « Les yeux jaunes des crocodiles » par Catherine Pancol.
Oui.
Et c'est bien après le livre que j'ai appris que ça fait partie d'une trilogie.
C'est
ça. Trilogie Joséphine. Donc, ça, c'est le numéro un. Mm-hmm. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une histoire de famille.
Oui.
Et les personnages principaux dans ce livre, c'est plutôt des femmes. Mm-hmm. Et donc, on voit toutes sortes de personnalités qui viennent nous chercher dans nos émotions. Soit on est d'accord avec cette personne ou on n'est pas d'accord.
Oui.
Et donc, l'histoire principalement, c'est deux sœurs. Les deux sont mariées. Une qui a été carrément laissée abandonnée par son mari après plusieurs années de l'avoir appuyée financièrement. Elle se ramasse seule avec deux enfants et deux filles. Et sa sœur, qui est aussi mariée avec un garçon, elle, de son côté, elle est mariée à un avocat, ils sont très, très riches. Ces deux histoires qui sont...
Destins différents, hein?
Oui, différents. Mm-hmm. Et là, on voit comment les deux passent à travers leurs difficultés personnelles.
Oui.
celle qui est divorcée, elle veut remettre sa vie en ordre, elle veut travailler, elle veut faire quelque chose pour améliorer son sort. Mmh. Et sa sœur, qui est très riche, elle trouve la vie très plate, en bon québécois.
Comme par hasard.
C'est ça, et puis elle cherche quelque chose pour qu'elle se sente respectée par son entourage, surtout son mari.
Mmh.
Et là, elle décide justement de demander à sa sœur d'écrire un livre sur les femmes dans le Moyen-Âge,
oui,
spécifiquement
oui, oui.
Les femmes du 13e siècle. Ça devient un roman historique. Et donc, sa sœur l'écrit, mais elle est l'auteur. Elle prête son nom à ce volume, cet écrit-là. Et donc là, partent les problèmes entre les deux sœurs. Une de ses filles découvre l'histoire, la cachette entre les deux. Et donc, les choses se déroulent pas tout à fait comment les deux femmes l'espéraient. Et je ne veux pas dire trop.
Vous avez raison.
Non, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre, il y a beaucoup d'humour, mais ça présente bien les réalités de la vie d'aujourd'hui et les pressions que les femmes passent à travers et les relations entre les femmes.
C'est ça, justement, je le lisais dans une critique. Ce roman, c'est un peu l'histoire de chacun de nous, celle des gens qui nous entourent. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait.
Et les personnages attachants ou détestables, énigmatiques, forts ou faibles. Oui, effectivement, ça ressemble exactement à ce qu'on vit tous les jours.
Exactement. Et il y a des passages dans l'histoire qui est quand même très drôle parce que le personnage, une des sœurs qui s'appelle Joséphine, qui s'est fait laisser par son mari, ben lui, il part avec sa nouvelle copine en Afrique. Il décide de partir une ferme pour... une ferme de crocodiles. En fait, il veut faire l'élevage de crocodiles. Et c'est une aventure. Il croit sincèrement de devenir riche, puissant. Il va faire beaucoup d'argent. Et en bout de ligne, ben, son histoire n'est pas tout à fait comme ça. Mais ça, cette partie-là, c'est drôle et triste en même temps. Mais
oui,
il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'émotions aussi qu'on y attache. C'est certain, tout au long du livre, on s'attache à certaines personnes, puis d'autres personnes, on attend qu'ils se fassent dénigrer par leurs propres actes et leurs propres gestes qui n'est pas tout à fait honnête. Et on attend jusqu'à la fin. Puis c'est bien, c'est bien.
Est-ce que ça vous a donné envie de lire les autres? Parce que je rappelle que il s'agit donc d'une trilogie. En 2008, il y a La valse lente des tortues qui était sortie. Et en 2010, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Elle a le chic pour les titres, hein, cette femme-là, Madame Pancol. Est-ce que vous les avez lus finalement parmi les 130 que vous avez lus cette année?
Je ne les ai pas lus. En fait, le livre Les yeux des crocodiles, je l'ai lu en anglais parce que je travaille comme traductrice. Et souvent, je ramasse des livres qui ont été traduits justement pour étudier un peu les techniques de traduction dans le monde littéraire. Et donc, moi, je l'ai lu en anglais, le premier volume. Les deux autres, je vais les lire en français. Ils ne sont pas encore disponibles en anglais, à ma connaissance, en format...
Ils le sont en français, par contre, en format audio,
exactement.
Évidemment.
Donc, j'ai l'intention de poursuivre. Je ne veux pas attendre, voir qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là. Après, je ne veux pas attendre trop longtemps. Mais je l'ai lu en anglais et donc ça s'appelle The Yellow Eyes of Crocodiles. Donc, la traduction a été très respectée ici. Et puis, c'est un bel œuvre, même en langue, dans une autre langue. Je pense que ça a été traduit même en plusieurs langues, non seulement l'anglais, parce que
ça a été traduit en 31 langues.
Oui, exactement.
Exactement. Et Madame Pancol, qui était, hein, puisque c'était la semaine dernière, le Salon du Livre, qui était au Salon du Livre aussi en tant qu'invitée d'honneur. Écoutez, je vous propose peut-être un petit extrait. Est-ce que ça vous tente? J'en ai un là sous les yeux. Extrait de Les yeux jaunes des crocodiles, je vous le rappelle, de Catherine Pancol. Pancol, je voudrais dire à nos auditeurs que ça s'écrit Pancol pour faciliter les recherches. Alors, petite citation, un très court extrait. Elle regardait attentivement le ciel étoilé et particulièrement la dernière étoile au bout du manche de la grande ourse. C'était son étoile quand elle était petite. Son père la lui avait offerte. Un soir qu'elle avait un gros chagrin, il avait dit « Tu vois, Jo, cette petite étoile au bout de la casserole, elle est comme toi. Si tu l'enlèves, la casserole perd son équilibre et toi, si on te retire de la famille s'écroule parce que tu es la joie incarnée, la bonne humeur, la générosité. » Et pourtant, avait poursuivi son père, elle a l'air bien modeste, cette étoile en bout de constellation. On la voit à peine. Dans chaque famille, il y a des gens qui ont l'air de petits boulons, insignifiants. Et pourtant, sans eux, il n'y a plus de vie possible, plus d'amour, plus de rire, plus de fête, plus de lumière pour éclairer les autres. Toi et moi, nous sommes des petits boulons d'amour. Elle a une belle écriture, Madame Pancol.
Oui, et je me souviens très bien de cet extrait. C'était dans un moment particulier dans le livre quand elle faisait beaucoup d'introspection. Elle se demandait quelle était sa place dans le monde. Et puis, je me souviens très bien.
Oui. Madame Vida, j'ai été ravie de pouvoir partager ce moment avec vous, mes invités aussi d'ailleurs, et je suis certaine que nos auditeurs ont apprécié cette nouvelle voix. Et j'espère qu'on va vous réentendre très bientôt, parce qu'à 100 ans de bouquins par année,
oui. Vous
en avez des livres à nous proposer.
Hein? J'en ai beaucoup.
Bon, la glace est cassée maintenant. Alors, c'est un rendez-vous?
C'est un rendez-vous.
Merci beaucoup, Suzanne.
Merci à vous.
Bonne fin de journée.
Pareillement.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et c'est Normand Baillargeon, l'invité spécial du jour. Comment allez-vous, Normand?
Ça va très bien. Vous de même, j'espère, Clotilde.
Mais écoutez, oui. Puis j'étais tellement heureuse que vous acceptiez de venir lorsque j'avais rencontré ici même à cette émission Madame Routy avant le salon du livre. On avait évoqué entre autres quels étaient les invités spéciaux de l'année et vous en faisiez partie. Puis je me suis dit, Normand, faut que je vous avoue quand même, à vous qui nous écoutez, qu'on s'est connu Normand dans une autre vie, il y a un peu plus de 20 ans, alors que vous étiez beaucoup dans la musique. Hein, vous écriviez des textes de chansons. Je me souviens qu'il y avait Claude Gauthier qui était constamment chez vous, ou presque, en tout cas parce que vous aviez fait quelque chose avec Claude.
Et un certain Philippe Noirot aussi,
en tout cas tous ces gens-là. Et je referme très vite la parenthèse, parce que depuis longtemps, je voulais vous inviter. Puis à un moment donné, je suis allée voir sur le SQLA au catalogue, et j'ai vu que nous avions beaucoup, beaucoup de vos essais qui ont été enregistré. Et je me suis dit, mais il faut que j'invite Normand. Et j'étais toute intimidée parce que qui dit Normand Baillargeon dit philosophie. Et je me dis en 10-12 minutes, ah là là, ah là là. Et puis finalement, pour m'apercevoir que, je ne sais pas si vous aimez le mot, mais aimez-vous le mot vulgarisateur ou pas?
Je l'aime.
Vous l'aimez?
J'aime le mot pédagogue aussi de la philosophie.
Oui, voilà.
Mais je trouve noble de faire de la vulgarisation. C'est une
parce
tâche
que
importante.
Oui, et je trouve que vous le faites très bien, parce que c'est quand même, on en parlait un petit peu hors onde, c'est très rébarbatif. Et lorsqu'on vous écoute parler de philo, lorsqu'on vous lit, on s'aperçoit que finalement, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus accessible que ce qu'on pense.
Ouais, je pense qu'il y a moyen de rendre la philosophie accessible. Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont on nous en parle, de la personne qui nous en parle. Mais je pense que les questions philosophiques intéressent tout le monde par nature, presque. Parce qu'il s'agit de grandes questions qu'on n'a jamais cessé de soulever tout au long de l'histoire de l'humanité. Si vous regardez l'histoire de la philosophie, peu à peu, certaines des questions que les philosophes posent trouvent des réponses. Oui. Et lorsqu'ils trouvent des réponses, ça devient de la science et puis de la philo. Mais il y a des questions...
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Dès l'instant qu'un philosophe trouve une réponse...
C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop comment prendre une question, quand elle est confuse conceptuellement, on est en philosophie. Si on sait poser un problème et comment s'y prendre pour le résoudre, on n'est plus en philosophie. On est en science. Et donc, les questions qui intéressent les philosophes et qui restent présentes sont des questions qui intéressent l'humanité, sur lesquelles on débat encore. Par exemple, qu'est-ce qu'une société juste? Qu'est-ce que ça signifie, l'éducation? Qu'est-ce qu'on appelle beauté? Alors, ce genre de questions-là, c'est des questions qui restent avec nous et sur lesquelles il y a des débats encore et beaucoup de clarifications à faire. Et ces questions-là, non seulement intéressent tout le monde, mais sont d'une actualité étonnante. Mm-hmm. Hein, par exemple, en ce moment...
L'éducation.
L'éducation, par exemple. Pensez au débat qu'on a au Québec en éducation.
Oui.
Beaucoup de ces questions-là concernent la nature même de l'éducation. Qu'est-ce que vous entendez par éducation? Est-ce que l'éducation, c'est la préparation à l'emploi? C'est une réponse possible, mais on peut la contester de toutes sortes de manières.
Exactement.
Aussi. Est-ce que l'éducation, c'est la formation de l'esprit qui acquiert certains savoirs, qui émancipe, mais pas n'importe lesquels. Alors, lesquels? Pourquoi? Comment? Ce genre de questions-là intéresse tout le monde, je pense. Mm-hmm. Et je suis fasciné de voir comment, quand on se met à discuter avec les gens, très rapidement, ils reconnaissent l'importance de ces questions-là parce qu'ils se les posent eux-mêmes. Et vous savez, à défaut d'avoir des réponses, la philosophie au moins soulève ces questions-là, mm-hmm. aide à les clarifier. Et je pense aussi, Clotilde, qu'on vit une période d'effritement des repères traditionnels dans notre société, alors que la religion a longtemps fourni des réponses.
Ah,
elle
ça.
Est plus présente. Alors que les institutions mm-hmm. politiques reposaient sur des valeurs communes qu'on croyait acquises et solides. Tout ça, maintenant, fait l'objet souvent de cynisme, de remise en question profonde. Alors, dans un contexte où les repères traditionnels s'écroulent, la philosophie retrouve de l'intérêt pour beaucoup de personnes dans la mesure où elle soulève ces questions-là. Et à défaut d'apporter des certitudes, elle apporte des clarifications des questions posées.
Vous devez être très, très fier, Normand, parce que, par exemple, votre essai « Petit cours d'autodéfense intellectuelle » s'est vendu comme un vrai best-seller. C'est vendu comme même plus peut-être que du Michel Tremblay ou du Marie Laberge. Non, mais c'est...
Moi, ce que je me demande,
est-ce qu'on peut ouvrir? Voilà, merci beaucoup parce que...
Est-ce que c'est vous qui avez choisi le titre? Parce que moi, j'adore le titre de cet essai-là.
Oui, le petit cours d'autodéfense intellectuelle.
Le titre est dû à Chomsky, en fait, hein, je le rappelle.
Oui, c'est vrai.
Chomsky dit quelque part, si on... voyez encore la question de l'éducation. Ouais. Chomsky dit, si on avait un vrai système d'éducation, on donnerait aux gens des cours d'autodéfense intellectuelle.
C'est ça.
Mais alors, moi, je me demandais, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Puis là, mon jeu de voir, donc voici ce que je mettrais dans un cours comme celui-là, et je l'ai écrit en pensant à ça. Tu sais, quel est le kit nécessaire pour assurer son autodéfense intellectuelle?
Et vous dites que la culture est un objet problématique à circonscrire, c'est un peu de tout, mais pas n'importe quoi.
Oui,
c'est bien dit. Hein?
J'ai publié un livre il y a 2 ou 3 ans chez Flammarion en France sur la culture générale. Tu vois, la question étant, qu'est-ce que c'est que la culture générale? Est-ce que c'est simplement, ça pourrait être ça, hein, la culture générale, simplement une espèce de vernis dont on se pare et qui n'a pas grande profondeur? Est-ce que ça a encore du sens de parler de culture générale aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mettrait là-dedans? Alors, j'ai essayé de définir ce que j'entends par culture générale et de dire pourquoi, à mes yeux, c'est important. Il y a toutes sortes de raisons. C'est important en soi, Clotilde, d'avoir de la culture générale.
Oui.
Je pense qu'on est mieux de vivre une vie où on connaît la musique, on est mieux de vivre une vie où on connaît la littérature, la philosophie, les sciences, etc. Ça, c'est mieux en soi. Mais c'est important aussi pour la qualité de nos échanges, la conversation démocratique. C'est important, vous voyez le sondage là, auquel j'ai participé à la presse.
j'allais vous en parler, le questionnaire, le fameux questionnaire.
Il y avait des questions là-dedans, puis ouais. qui pour moi est importante. Évidemment, les questions sont discutables, arbitraires, on pourrait en avoir mis d'autres, puis il n'y a pas de honte à avoir un mauvais résultat à ça. Mais sur le fond aussi, il reste que dans un contexte, par exemple, où les politiciens viennent nous dire les budgets fonctionnent plus, il faut entrer dans des périodes d'austérité, il faut couper partout. C'est important de savoir qu'un des plus grands économistes de tous les temps, Keynes, et ses disciples aujourd'hui, pensent que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale dit le contraire également. Mmh. Que cet économiste-là s'appelle John Maynard Keynes.
J'ai lu celle-là.
Il y a très peu de gens au Québec qui reconnaissent l'existence. Alors donc, la culture générale, c'est pas simplement un vernis, ça doit nous transformer, rendre notre vie meilleure, et c'est aussi quelque chose d'utile pour les débats et les échanges qu'on a entre nous. Si vous permettez une dernière chose là-dessus.
Ah non, je vous en prie.
Dans mon petit livre, je défendais une autre idée, c'est que en Occident, on a longtemps eu une image de la culture générale reliée à la philosophie et aux arts, à la littérature. Mais je pense qu'on est entré dans une phase de l'histoire où les sciences et les mathématiques sont devenues nécessaires. C'est extrêmement difficile de comprendre le débat sur le gaz de schiste au Québec ou la problématique du réchauffement climatique. Vous savez, c'est moi qui avais mis PPM dans le sondage de la presse, sans avoir un minimum de connaissances scientifiques. Et je pense que l'éducation qu'on transmet à nos jeunes devrait leur donner ça. Oui, je te le dis.
Parce que vraiment, celle-là, je ne l'ai pas eue. Je voudrais qu'on... Bon, je suis contente qu'on parle de ce bouquin que vous avez fait paraître, mais je voudrais qu'on parle des quelques-uns qui sont ici et que nous avons en plus disponibles en format audio pour nos auditeurs. Donc, le petit cours d'autodéfense intellectuelle est là. Liliane est au lycée. Ça, celle-ci, le titre, c'est vous qui avez eu l'idée de ça.
C'est l'éditeur français chez Flammarion, c'est le livre sur la culture
c'est
générale.
Ah,
et c'est un jeu de mots sur l'Iliade et l'Odyssée, parce que l'éditeur, c'est une dame là-bas, me disait, racontait l'histoire du père, sa fille est à l'école, elle étudie l'Iliade et l'Odyssée, et il dit à ses amis, elle est en train de lire l'Iliade est au lycée.
Oui, c'est ça, exact. Alors, nous l'avons ici également enregistré, c'est au SQLA. Liliane est au lycée. 2 points. Est-il indispensable d'être cultivé? Mais il y en a d'autres. Ah oui, ça j'adore. Stéroïdes pour comprendre la philosophie. Et voilà, ça je trouve ça aussi. Écoutez, là, d'Aristote à Chomsky, vous y allez fort là-dedans aussi. Oh là 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 là, quel
disons,
titre,
c'est,
quel...
C'est mon effort. C'est la philo pour les nuls, si vous voulez. c'est pour commencer en philosophie. Une dizaine de chapitres comprenant, d'ailleurs, à la fin, 10 points à retenir, etc. 10 questions auxquelles vous devrez être en mesure de répondre. Et ça fait un large survol de la philosophie, théorie de la connaissance, philosophie politique, esthétique, éthique, ainsi de suite.
Vous dites à un moment donné, enfin, je me pose la question, je pense que j'ai lu ça quelque part, mais en ce qui concerne la pensée critique, est-ce qu'on peut vraiment initier la pensée critique? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'inné?
Il y a deux choses. D'abord, notre cerveau, à nous, être humains, il a été façonné par l'évolution. Et ce façonnement-là fait qu'il y a des habitudes qu'on a qui sont excellentes et il y en a d'autres qu'on a qui sont beaucoup moins bonnes. Et il faut lutter contre ce genre d'habitudes-là. Alors, par exemple, on est parfois amené à conclure trop vite. On a un très mauvais sens des probabilités. On donne du sens à des choses qu'on voit, même s'il n'y en a pas, parce que ça présentait parfois un avantage évolutif. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre à développer parce qu'elles ne sont pas spontanées. On est plein de biais cognitifs, nous, les êtres humains. Mmh. Alors, prendre conscience de ça, ça aide à développer sa pensée critique. Mais un deuxième aspect de ce dossier-là, Clotilde, c'est que la pensée critique s'exerce toujours sur un objet. Et donc, pour pouvoir penser de manière critique à un problème, à une question, il faut avoir beaucoup de savoir sur cet objet ou ce problème. Par exemple, c'est difficile de penser de manière critique à la politique d'austérité si on connaît pas, si on n'a pas des notions d'économie, si on ne sait pas si c'est Keynes, si on ne sait pas ce que c'est que l'inflation, si on ne sait pas ce que c'est qu'un budget, si on ne sait pas pourquoi un budget d'une famille, ce n'est pas comme un budget d'une nation.
Et pourtant, tout le monde s'exprime là-dessus.
Et voilà. Mais est-ce qu'on souhaiterait?
Le fameux bon père de famille là, qui gère.
C'est d'ailleurs un sophisme, ça. Hein? C'est penser comme ça, c'est un sophisme parce qu'il y a trop de choses différentes entre le budget d'une nation et le budget d'une famille pour qu'on puisse s'assimiler l'un à l'autre. Mais évidemment, le discours populiste va rapidement tomber là-dessus, cette analogie-là, qui est une fausse analogie, donc un sophisme. Et donc ça suppose une population éduquée, d'où la grande importance dans ma pensée, dans mes idées, puis dans celle de plein de gens qui m'ont précédé, qui pensaient comme moi, de cette idée d'instruction publique, c'est d'avoir un public cultivé, capable de discuter de manière rigoureuse d'objets et de situations complexes.
Pour finir, Normand, j'ai l'impression que lorsqu'on en est philosophe, on est plus éclairé. Mais est-ce que ça ne fait pas mal d'être plus éclairé? Parce que justement, quand on est très éclairé, puis qu'on voit tout ce qui se passe en matière d'éducation et tout ça, moi qui ne me considère pas comme une philosophe, donc qui me considère forcément comme moins éclairé que vous, ça me fait mal. Je me dis, mais qu'en est-il avec des gens comme vous, Normand Baillargeon, philosophe?
Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est ce que je fais dans la vie, c'est extrêmement agréable. Se cultiver, apprendre, c'est ludique. Il y a quelque chose d'extrêmement agréable là-dedans. Et moi, je ne désespère pas de la vie ou de mes concitoyens. Je pense qu'il faut diffuser des idées, discuter. Et il y a deux options. Hein, ou on désespère qu'on ne fait plus rien puis le pire va survenir. Ou on conserve l'espoir et on se bat, il y a des chances qu'on gagne. Et moi, c'est le pari que je préfère faire.
Vous revenez quand, Normand?
Quand vous voulez.
Non, parce que je précise et je le dis très... vraiment, ça me fait plaisir. Vous êtes tous les dimanches matins à l'émission de Franco Nuovo à Radio-Canada. D'ailleurs, ce qui nous permettait, on en parlait tantôt aussi, de dire que quelque part, la philosophie est à la mode parce que vous attirez beaucoup de monde. Vous avez un grand auditoire et c'est tant mieux. Et vraiment...
Ça me fait plaisir. Je remercie Radio-Canada de m'avoir invité.
Oui, absolument.
À faire ça. Et Franco, avec qui c'est tellement agréable de travailler.
Bon, et si on vous demande de faire la même chose, mais sans cachet, en tout cas, on raconte une autre histoire.
Je reviendrai volontiers, Claude. C'est toujours un plaisir de vous voir.
Merci, Normand. Merci tellement. Je voudrais redonner quelques titres de livres, quoique je le ferai aussi pendant mes rafales, mais au moins, intéressez-vous à un petit cours d'autodéfense intellectuelle stéroïque pour comprendre la philosophie. Si, comme moi, vous n'y connaissez rien, pourquoi pas? Et puis, il y en a d'autres là. Attends, il y avait celui sur le hockey aussi. Ah oui, la vraie dureté du mental. Hockey et philosophie, c'est bien ça. Bref, écoutez, je vous donnerai tout ça aussi dans mes rafales d'autres titres. Mais pour l'instant, on passe à un autre chapitre.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et j'ai choisi cette semaine de revenir sur Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. On est revenu aussi sur cette œuvre-là au moment du Salon du Livre, puisque Mireille Desglin en a même lu quelques extraits, elle qui jouait le rôle principal. Faut-il rappeler que nous sommes dans le quartier montréalais de Saint-Henri, nous sommes en plein milieu de familles d'ouvriers, de petits employés canadiens-français, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, qui sont désespérément en quête de bonheur, et que Florentine, donc, était jouée par Mireille Desglin, elle croit trouver le sien finalement dans l'amour. Hein, en gros, c'est cette histoire. Emmanuel s'enrôle, Azarius fuit dans le rêve, Rosanna cherche le bonheur dans la famille, Jean entreprend son ascension sociale. Donc chacun à leur manière, ils vont essayer d'inventer leur propre voie de salut, puis chacun à leur manière. Ils échouent. Vous aviez lu ce livre?
Oui, ça fait très longtemps. J'avais
Isabelle
aussi
Falardeau.
Vu la télésérie, je pense qu'on dit... Je trouve que c'est une belle illustration d'une des réflexions qu'on se fait sur le système de santé, par exemple, où on a la chance ici d'avoir un système de santé public, puis c'est pas le cas nécessairement. En fait, c'est pas le cas du tout aux États-Unis. Et moi, quand j'avais vu ça, c'est ce qui m'avait en premier frappé. C'est complètement une autre époque, une autre situation. Puis Dieu merci, on a changé. On a changé les choses parce que c'était une époque où les gens mouraient, les gens...
Oui, c'est ça. Oui. Et puis, il y avait la guerre, au fond.
Il y avait la guerre aussi, mais on était enceinte et puis on ne pouvait pas aller à l'hôpital accoucher parce que c'était trop cher. On avait la tuberculose. Il y avait quelque chose de très... qui fait plaisir de plus être là quelque part. Moi, en tout cas, c'est ça que ça m'avait donné comme sentiment. Mais j'étais très jeune quand j'ai autant quand j'ai lu le livre que quand j'ai vu.
Je vous propose qu'on quelques souvenirs de ce livre aussi, et puis forcément quelques images parce que vous avez raison. Le téléroman a été essentiel à la télévision québécoise. On commence par ces petites notes de musique. L'image de Florentine pourrait mourir dans son souvenir, l'image de sa jeunesse pourrait se perdre, mais jamais il n'oublierait l'affreuse pauvreté qui avait entouré leur instant d'amour. Cela était la suprême offense qui déteignait sur son sentiment de supériorité, le gênait déjà jusque dans ses ambitions de l'avenir, se présentait peut-être à lui chaque fois qu'il réussirait, et d'autant plus qu'il réussirait. Elle, silencieuse, songeait que la pauvreté est comme un mal qu'on endort en soi et qui ne donne pas trop de douleur à condition de ne pas trop bouger. On s'y habitue, on finit par ne plus y prendre garde tant qu'on reste avec elle, tapis dans l'obscurité. Mais qu'on s'avise de la sortir au grand jour et on s'effraie d'elle, on la voit enfin si sordide qu'on hésite à l'exposer au soleil. Voilà deux courts extraits de ce Bonheur d'occasion de Gabrielle Leroy, qui était notre classique de la semaine sur la musique de Monsieur Dompierre. C'est d'ailleurs lui qui était au piano là et qui jouait cette mélodie « Reste avec moi » qui avait été immortalisée en chanson par Diane Tell. Et là, vous dites « Oh, on aimerait ça l'entendre ». Vous allez l'entendre, je vous le promets. Je vous redis que vous êtes à l'écoute d'un livre découvert. C'est Clotilde Seil qui est au micro avec ses invités du jour, Normand Baillargeon et Isabelle Falardeau, qu'on va retrouver tout de suite après cette petite pause.
À livre découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
Sur ma peau, une promesse de caresse. Je succombe à l'ivresse d'être ta maîtresse et ma détresse devient tendresse pour t'offrir ma seule richesse, ma jeunesse. Quand je sens ton corps, donne le signe du départ. Je n'ai que l'espoir de te retenir encore. Je veux te garder, oui, je veux te garder toute la nuit.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Je vous l'avais dit qu'on entendrait cette chanson-là. Ça n'a pas vieilli.
Ah,
c'est extraordinaire.
Quels beaux arrangements.
Ah, les arrangements, dont Pierre, c'est quand même quelque chose. Bonjour Isabelle Falardeau, nous sommes contentes de vous revoir ici dans ce studio. Vous
Mais
connaissez
moi,
bien.
Si, ça me fait plaisir, ça faisait un petit bout de temps.
Alors, vous ne faites plus de la radio avec nous parce que vous êtes partie vers d'autres destinées.
Ben
Mais
oui.
Par contre, vous continuez à lire des livres bénévolement. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de ce livre que j'ai annoncé en primeur la semaine dernière.
Parce que Alors, maintenant, j'espère je fais que des c'est bon.
Alors, parlez-nous de ce bouquin. D'abord, le titre et l'auteur.
Alors, le titre, c'est en français « Big Easy ». C'est traduit de l'anglais américain. Et l'auteur, c'est Ruta Sepetys. Évidemment, je dois mal le prononcer, mais bon.
Ça s'appelle S-E-P-E-T-Y-S. Ruta, R-U-T-A.
T-A, voilà. Et c'est un roman historique. Moi, j'adore les romans historiques. Évidemment, quand on est lectrice bénévole, on ne choisit pas les livres qu'on lit.
Eh non.
Mais souvent, quand même assez souvent dans mon cas, j'ai été chanceuse, on tombe sur des livres qu'on aurait aimé lire pour vrai si on les avait choisis. Et moi, ça donne... J'aime les romans historiques, un peu comme notre lectrice de tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, la lecture, les livres sont très importants. Et ils sont très importants dans ma vie, parce que moi aussi, je dois lire 150 livres. En fait, je regarde ça, là, puis je fais le compte, j'en lis 2, 3, 4 par semaine. Donc,
c'est incroyable.
Je lis vraiment beaucoup de livres parce que j'aime ça.
Électroniquement, vous, hein? Vous avez délaissé le papier.
Les deux, en fait. Honnêtement, là, j'aime beaucoup la tablette parce que je ne suis pas obligée de mettre mes lunettes pour lire. Je peux juste grossir les caractères. Et puis, je peux avoir plusieurs livres pour le poids d'un seul.
Alors, celui-ci.
Mais celui-ci, donc, c'est ça, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Fin des années 40, début 50, 1950. Et le personnage principal est une jeune adolescente, en fait presque adulte, là, 16 ou 17 ans. Elle s'appelle Josie et sa mère est une prostituée. Et c'est vraiment la pire mère qu'on puisse imaginer. Là, le genre à voler sa fille pour qu'elle puisse plus manger, pour elle aller s'acheter de l'alcool. Là. C'est vraiment là le... Mais elle a la chance de tomber sur des gens qui ne sont pas sa famille, mais qui l'adoptent, entre guillemets, dont la tenancière du bordel où travaille sa mère, qui vraiment l'adopte comme sa fille et qui veut vraiment, vraiment pas qu'elle finisse comme sa mère. Et donc, elle lui permet de... Bon, elle travaille là, donc pour se faire un peu d'argent parce que sa mère, évidemment, ne l'aide pas à vivre. Et elle est aussi adoptée... par le propriétaire d'une librairie. Et c'est là que la lecture vient prendre de l'importance parce qu'elle travaille à la librairie avec cet homme-là et elle l'aide et elle fait la connaissance du fils du libraire aussi au moment où l'histoire se déroule, il est moins présent, le libraire, parce qu'il est malade, mais il est vraiment présent spirituellement, si on veut, parce qu'il est vraiment important dans sa vie à elle, et elle lit beaucoup. Et elle, c'est clair aussi dans sa tête qu'elle ne va pas devenir sa mère. C'est ça qui est beau dans cette histoire-là, c'est que c'est une histoire, je ne dirais pas de résilience, mais peut-être de transcendance. En tout cas, c'est on est dans une mauvaise situation, mais on sait qu'on va s'en sortir parce qu'on est capable. Elle sait qu'elle est consciente du fait qu'elle est intelligente, qu'elle va être capable de se servir de son intelligence pour aller plus loin que ce à quoi le destin l'avait
construit. Oui, bien sûr. Est-ce que la Nouvelle-Orléans est un personnage? Je veux dire, est-ce qu'on vibre beaucoup au rythme de cette ville?
Peut-être pas autant que dans d'autres livres, mais oui, on sent quand même l'ambiance un peu festive, un peu dépravée de la Nouvelle-Orléans. Le crime organisé, ça se passe un peu dans un bordel, ou en tout cas autour d'un bordel. Il y a cette espèce de criminel qui travaille pour un gros chef de la pègre qui est l'amoureux de sa mère et qui cause toutes sortes de problèmes. Donc oui, on est beaucoup dans le crime, mais c'est pas ça qui fait... C'est plus, c'est une toile de fond, c'est une ambiance, mais c'est vraiment l'histoire de ce personnage-là auquel on s'attache tout de suite. Puis moi, il y a vraiment des moments où j'ai voulu aller lire la fin parce que j'avais trop peur que ça finisse mal. Puis vous savez, il y a des livres comme ça, quand on est lecteur, on lit chaque semaine, bon, deux fois par semaine, dépendant de nos disponibilités, alors que moi, sinon, le livre, je l'aurais terminé en deux jours si j'avais lu à la maison. Et c'est vraiment le genre de livre que j'avais hâte à chaque semaine de retrouver. Et j'ai failli, ça m'est arrivé une couple de fois de faillir le louer à la bibliothèque ou l'acheter.
Mais en tout cas, ça vous tente de vous replonger là-dedans au moins 2 minutes 30, 3 minutes?
Je vais rougir, mais allez-y.
On y va.
Ma mère est prostituée. Bon, il y a prostituée et prostituée. Disons que ce n'est pas le genre à faire le trottoir. Elle n'a rien d'une vulgaire fille des rues. Au contraire, elle est très jolie, porte de ravissants vêtements et s'exprime assez correctement. Mais elle couche avec des hommes contre de l'argent ou des cadeaux, ce qui, selon le dictionnaire, fait d'elle une prostituée. Elle a commencé de travailler en 1940, l'année où nous avons quitté Détroit pour emménager à la Nouvelle-Orléans. J'avais alors 7 ans. Je me souviens que nous avons pris un taxi à la gare et qu'il nous a déposés à l'hôtel, un hôtel très chic de St. Charles Avenue, où Mam avait rendez-vous avec un homme originaire de Tuscaloosa. Ils ont parlé dans le hall d'entrée en buvant un verre. Elle m'a présentée comme sa nièce et raconté à cet homme qu'elle devait me conduire chez sa sœur. Elle ne cessait de me faire des clins d'œil et de chuchoter qu'elle m'achèterait une poupée si je jouais tranquillement en l'attendant. Cette nuit-là, j'ai dormi toute seule dans le hall, rêvant de ma nouvelle poupée. Le lendemain matin, elle a pris pour nous deux une vaste chambre avec de hautes fenêtres et de petits savons tout ronds qui sentaient le citron. Le type de Tuscaloosa lui avait donné un coffret de velours vert dans lequel il y avait un rang de perles. « Josie, cette ville va nous traiter royalement », a dit ma mère, qui, seins nus devant le miroir, était en train d'admirer son collier de perles tout neuf. Le jour suivant, un chauffeur de taxi à la peau sombre, nommé Cokie, s'est présenté à l'hôtel. Mam était invitée à rendre visite à une personne importante du quartier français. Elle m'a donné un bain et a insisté pour que je mette une jolie robe. Elle a même noué un ruban dans mes cheveux. J'avais beau avoir l'air idiote avec ce ruban, je n'ai rien dit à Mam. Je me suis contentée de hocher la tête et de sourire.
Alors, ce livre, cet extrait que nous venons d'entendre de ce livre lu par Isabelle Falardeau, qui était à côté de moi aujourd'hui et à côté de vous, pour vous présenter ce bouquin « Big Easy » de Madame Sapetys. On ne sait pas trop comment ça se prononce, mais je vais vous l'appeler à nouveau « Ruta », R-U-T-A, et le nom de famille Sapetys, S-E-P-E-T-Y-S. Oh, moi, ça me rappelle des souvenirs de la Nouvelle-Orléans.
Ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais en train de lire le livre et de le découvrir, parce que c'est ce qui est bien avec le bénévolat ici, c'est qu'on découvre les livres au fur et à mesure qu'on leur donne voix.
Moi, je suis ravie parce que comme ça, je sais aussi que vous allez revenir pour nous en parler à un moment
donné.
Beau
choix, l'accompagnement musical. Hein?
Ah, bah, merci beaucoup, Normand. Merci beaucoup. C'était du, ça avait bien du désespoir plein la trompette, ça, comme disait Pierre Perret. Merci beaucoup, Isabelle Falardeau. On se retrouve très rapidement avec le plus grand plaisir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Et là, je me suis dit, tiens, à quoi je... Quel est le sujet? Quel est le thème? Quelle est l'ambiance que je n'aurais pas encore abordée à cette émission-là? On a parlé de philo, on est allé dans l'ambiance, dans l'univers de Gabriel Roy. Tout à l'heure, dans les rafales, on va aller un petit peu dans le polar, tout ça. Je me suis dit, oh, il me semble que ça manque d'épices, tout ça. Ben, j'ai dit, voilà les épices. Et je me souvenais qu'on m'avait dit dans le studio de chez Vues et Voix que Michel Laval, qui est un bénévole habitué, d'ailleurs, aussi de cette émission-là, quand il n'est pas parti en Thaïlande où il vient de partir, zut, on l'a perdu pendant quelques mois, toujours est-il qu'on m'avait dit, il a lu ce bouquin sur les épices comme s'il s'agissait d'un roman d'histoire. Il paraît que c'est extraordinaire. Et là, je me suis dit, oh, tiens, je vais aller écouter ça. Et effectivement, je suis allée écouter le livre et c'est formidable. Alors, ça s'appelle « Épices du monde, des saveurs à découvrir ». C'est de Marie-Christine Garreau, G-A-R-E-A-U. Description de cela, voici celle qu'on nous en fait sur le net. Que ce soit pour leurs couleurs vives ou leurs arômes envoûtants, les épices ont tout pour plaire. Ce n'est donc pas un hasard si leur place dans la cuisine n'est plus à faire, et ce, dans tous les pays du monde. À chaque région, ses épices, entre les saveurs relevées de l'Amérique du Sud, celles plus parfumées de l'Inde, ou les goûts bien connus et réconfortants de la cuisine de chez nous, les repas seraient beaucoup moins intéressants sans l'apport des épices et des aromates qu'on y ajoute. Alors dans ce livre, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour goûter pleinement les épices d'ici et d'ailleurs, avec, comme différents chapitres, la petite histoire des épices, des fiches sur les épices les plus utilisées, des trucs et des astuces pour choisir et conserver les épices, des recettes de mélange d'épices, les recettes du monde entier et des recettes classiques réinventées. Je ne résiste plus au plaisir de réécouter Michel Laval nous faire un peu l'historique des épices.
Chapitre 1. La petite histoire des épices. L'histoire des épices remonte à bien avant notre ère. Certains situent son origine lors de la plus ancienne période de la préhistoire, celle du Paléolithique, qui a débuté il y a environ 3 millions d'années et qui a pris fin aux environs de 12 000 ans avant Jésus-Christ, alors que l'être humain était chasseur-cueilleur. Apparemment, déjà à cette période, les humains utilisaient des plantes odorantes afin de les mêler à leur nourriture. Puis leur utilisation s'est bonifiée lors de l'avènement de l'agriculture, il y a près de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il est difficile aujourd'hui de connaître avec précision les raisons qui ont poussé les premiers humains à épicer leur nourriture, mais tout porte à croire que les motifs sont toujours les mêmes, soit pour le goût et la conservation des aliments. À force d'échanges et au fil du temps, les épices, de même que la manière de les apprêter, se mirent à parcourir le monde. C'est pourquoi l'on retrouve des similitudes chez plusieurs peuples anciens dans la façon de les utiliser, même si des siècles et de grandes distances les séparent. Par exemple, on sait maintenant que les Arabes, les Égyptiens, les Grecs et les Romains usaient des épices à des fins cosmétiques. En effet, ils se rafraîchissaient l'haleine en les mastiquant et s'en servaient aussi afin de parfumer corps et foyer. À cette époque, les épices n'étaient pas uniquement utilisées en cuisine, elles tenaient également lieu de remèdes, faute de mieux, ainsi qu'à effectuer certains rituels. Les Égyptiens se servaient entre autres de la cannelle, du poivre et du thym lors de leurs rituels de momification. Pour eux, la bonne conservation du corps assurait une vie agréable dans l'au-delà.
Et la suite, bien sûr, si vous allez vous procurer ce livre dont je vous redonne le titre, il s'agit de « Épices du monde, des saveurs à découvrir » de Marie-Christine Garreau, G-A-R-E-A-U.
Des nouvelles et des livres.
Alors, des nouvelles et des livres, j'ai trouvé ceci en ce mois de novembre. C'était le 7 exactement dans la presse. Retour vers le futur. On parle là de Margaret Atwood, notre grande romancière canadienne, dont le livre Mad Adam vient de sortir. Et non seulement il vient de sortir, mais en fait, il était en lice pour le prix Médicis étranger. Alors, elle ne l'a pas obtenu, la dame, mais elle en a déjà tellement eu des prix. Mais celui-ci, bon, il lui a échappé. C'est une madame Lily Brett, je vous le dis parce que c'est important, c'est une écrivaine australienne, malheureusement. Donc c'est cette Madame Brett qui a reçu le prix Médicis étranger. Je me suis ruée sur le catalogue. Je n'ai rien vu de Madame Brett, malheureusement, en audio, mais j'ai déjà passé la commande pour qu'on enregistre le livre de Madame Brett qui s'appelle, je l'avais quelque part, c'est Lola quelque chose. Je vais vous retrouver ça, pardon de m'être un petit peu perdue, mais sachez que le livre de Madame Brett sera disponible dans plusieurs mois, tout comme d'ailleurs celui de Madame Atwood, parce que ce Mad Adam, évidemment, il vient de sortir, donc je ne peux pas vous dire qu'on l'a déjà, mais il s'agit d'une trilogie, et le premier de cette trilogie a été enregistré, et nous l'avons par l'USQLA. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi ce titre dans la presse, un titre de Mario Cloutier, Retour vers le futur? Eh bien, simplement parce qu'il s'agit réellement d'une trilogie d'anticipation. Même, en tout cas, on dit anticipation. D'ailleurs, lui, il n'était pas sûr. Il dit, j'appelle ça comment? Science-fiction, anticipation? Si bien qu'il a rencontré Madame Atwood et lui a posé la question. Il lui dit, les trois volumes de votre trilogie, dont Mad Adam, qui est donc le troisième, ne sont pas des romans de science-fiction comme tels. On dirait, en français, probablement anticipation. Est-ce que ce mot vous convient? Et Madame Atwood a répondu, oui, la langue française est beaucoup plus utile pour faire la différence entre la fiction spéculative et la science-fiction comme telle. Les francophones comprennent facilement qu'il s'agit de deux genres différents de livres, puisque l'arrière-grand-père des romans d'anticipation est nul autre que Jules Verne. Eh oui. Alors, le résumé, si vous me le permettez, de ce premier livre, j'ai un petit peu de temps, Jean-Sébastien, puisque vous pouvez le trouver. On nous dit ceci, renouant avec la tradition des Huxley, Orwell, bien sûr, Bradbury et de sa servante écarlate, de la même Margaret Atwood, eh bien, cette fois-ci, elle nous plonge dans un univers à la fois familier et terrifiant. Un monde dévasté à la suite d'une catastrophe écologique sans précédent où se combinent des conditions climatiques aberrantes, des manipulations génétiques délirantes et un virus foudroyant prompt à détruire l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, c'est presque fait, d'êtres humains au début du dernier homme, il ne reste que Snowman, lequel est confronté à d'étranges créatures génétiquement modifiées, les Crackers, une nouvelle race d'humains programmée pour n'être sujet ni à la violence, ni au désir sexuel, ni au fanatisme religieux, heureusement, et à des animaux hybrides qui s'appellent désormais porcons, loups chiens ou rascons. Ce monde visionnaire, nous dit-on, c'est presque le nôtre. Il s'agit d'un pamphlet politique, un conte prophétique, avec son humour noir et son intelligence acérée, un souffle romanesque inouï et une générosité contagieuse. Le meilleur des mondes, glorieusement inventif de Margaret Atwood, nous tend un miroir saisissant de vérité. Alors, je vous redonne le titre de ce livre. Il s'agit de « Le dernier homme ». Les deux autres de la trilogie sont « Le temps du déluge » et celui qui vient de sortir, c'est « Mad Adam ». Alors, je vous promets, je vous garantis que les deux, là, « Le temps du déluge » et « Mad Adam » sont maintenant en commande. Ils ont été commandés, ils seront prêts d'ici quelques semaines. Mais en attendant, pourquoi ne pas commencer par le premier, puisqu'il est disponible? Et j'ai retrouvé le titre du livre de Madame Lily Brett, écrivaine australienne, qui a remporté cette année le prix Médicis étranger. Il s'agit du livre « Lola Bensky ».
Quelques nouveautés en rafale.
Et oui, l'émission tire à sa fin. Alors, comme toujours, je suis allée voir du côté des nouveautés tout ce que j'avais à vous proposer. D'abord, on parlait de Margaret Atwood. Je voudrais vous redonner quelques titres ici. Si vous saviez à la fin de l'émission à quoi ça ressemble devant moi, c'est un vrai champ de bataille, mais c'est comme ça. Alors, de Madame Atwood, nous avons La servante écarlate, Marquée au corps, La femme comestible, Captive, Contes et légendes, et puis L'Odyssée de Pénélope. Tous ces livres-là de Madame Atwood sont disponibles chez nous. de Normand Baillargeon que j'ai reçu au tout début de l'émission. Anarchisme, l'Arche de Socrate, écrit dans la marge, heureux sans Dieu. Liliane est au lycée, est-il indispensable d'être cultivé? Petit cours d'autodéfense intellectuelle, raison oblige, stéroïdes pour comprendre la philosophie et la vraie dureté du mental, hockey et philosophie. Nous avons tous ces livres-là de vous, c'est incroyable, ça vous fait rire, non?
Non, je suis très content, ça me fait plaisir d'entendre hockey philosophie.
Et moi donc, c'est tellement improbable. Alors, parmi aussi les nouveautés disponibles pour vous, peut-être quelques livres que vous avez lus, je ne sais pas, de Monsieur Austin Rattner, ça s'écrit R-A-T-N-E-R. As-tu jamais rêvé que tu volais? Ça, c'est un récit extraordinaire, apparemment, honnêtement, que je n'ai pas lu. Comme je le dis souvent, je parle d'à peu près 15 ou 20 livres par semaine. Malheureusement, je ne les ai pas tous lus. Mais là, ça me donne vraiment envie. Le récit de l'extraordinaire parcours d'un homme brisé devenu artisan de rêve. On vous explique, nous sommes en Autriche en 1928. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui est injustement accusé du meurtre de son père. Albert Einstein, Thomas Mann se portent garant de sa personne. Sigmund Freud, à l'époque, est même appelé à la barre. La parodie de procès qui s'ensuit va ébranler l'Europe en 1928. Philippe Halsmann, vous connaissiez ce nom-là? Honnêtement, je ne connaissais pas. Et il est devenu un photographe très important. Son nom est notamment associé à Marilyn Monroe, à Alfred Hitchcock, à des gens comme ça, parce qu'il a été obligé de fuir l'Autriche et il s'est réfugié aux États-Unis. Où c'est là où sa route a croisé tous ces gens extraordinaires. Dali aussi, il a travaillé avec tous ces gens-là en tant que photographe. Et il y a une citation que je voudrais vous citer. Nous sommes au procès de ce fameux Halsmann et c'est Freud qui parle. Et qui leur dit « J'ai une anecdote célèbre pour vous. Un cambriolage a eu lieu et condamné pour en être l'auteur, évidemment un homme qui est trouvé en possession d'un passe-partout. » Donc, comme on trouve cet homme-là sur les lieux pas très loin et qu'il est en possession d'un passe-partout, Freud raconte que, pouf, on a décidé de le condamner. Et après la proclamation du jugement, le condamné, on lui demande s'il a des remarques à faire. Et le condamné dit « écoutez, je réclame à être également puni pour adultère parce que j'ai aussi sur moi l'instrument du délit. » Et c'est Freud qui raconte ça au procès de ce... Elle est bonne, hein? Au procès de... Je pense qu'il nous a rarement fait rire, Freud, mais là il a réussi son coup. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un livre qui s'appelle « As-tu jamais rêvé que tu volais ?» C'est magnifique. C'est de Austin Rattner, R-A-T-N-E. Généralement, je parle toujours d'un polar. Eh bien, cette fois-ci, je vais revenir sur un polar parce qu'il vient d'être réenregistré par point. Il s'agit de « Le train de 16h50 » de nul autre que Agatha Christie,
oui.
Le résumé. Allant dans la même direction et presque à vitesse égale, les deux trains semblaient disputer un match. Mrs. McGillicuddy, pour se distraire, regardait les occupants qui s'offraient à sa vue. Mais ce qu'elle lui vit lui arracha un petit cri. Debout, le dos tourné, un homme serrait la gorge d'une femme. Il l'étranglait. Le hasard voulut que le 16h50 ralentit et que le train parallèle le dépasse, disparaissant dans la nuit.
C'est du grand Agatha Christie, ça.
C'est du grand Agatha Christie. La critique d'un lecteur, moi j'avais lu ça aussi il y a très longtemps, qui nous rappelle que c'est le film « Le crime et notre affaire » avec Catherine Froh et André Dussolier qui lui a donné envie de redécouvrir ce roman. Alors, il dit qu'ici, on oublie les Beresford car c'est la célèbre Miss Marple qui mène l'enquête. C'est la première rencontre avec ce personnage. Enfin, c'était sa première rencontre avec ce personnage emblématique et je comprends, dit ce lecteur, pourquoi elle est tant appréciée. Alors que, bon, voilà, c'est une idée de départ à saluer. Cette femme en train dont on aperçoit la silhouette alors qu'elle se fait étrangler par ce bonhomme. Vous aimez bien les affaires de gloire et tout ça, alors je voudrais vous dire que M. José Lito Michaud nous a signé un bouquin qui s'intitule « 31 destins et 200 clichés volés ». Ce sont 31 personnalités, très grandes personnalités publiques de tous les horizons, Kim Thuy, Hélène Dan, Guylaine Tremblay, mais aussi Daniel Bélanger, des gens très différents comme Corneille, Ricardo Larrivé, Normand Baillargeon. Ah non, tiens, vous n'êtes pas là dedans. Et alors donc, il a cherché à démystifier leur histoire et leur trajectoire en les accompagnant dans leurs propres réflexions face à ce succès enviable et envié. Mais est-ce toujours une position enviable? C'est le thème de ce livre. Et je voudrais finir sur Albert Ladouceur, qui est un chroniqueur sportif. Le 12 août 2013, le destin lui a joué un tour, puisqu'on lui a appris qu'il était atteint d'un cancer du pancréas. Il vient de sortir un livre. Le livre s'appelle « Déjoué par le cancer ». Je vous en lis un court extrait. « Je me présente comme un homme ordinaire qui, par une banale journée ensoleillée du mois d'août 2013, a appris qu'il est devenu une autre cible du cancer. On m'a présenté ce cancer et non pas mon cancer comme l'un des plus meurtriers au pays, en fait le quatrième. Mon billet de loterie m'a valu le cancer du pancréas, traître, sournois, imprévisible et qui achève toujours ses victimes, bien que de nouvelles chimiothérapies permettent une espérance de vie où les années remplacent les mois. » C'est un livre, contrairement à ce qu'on pense, qui est très porteur d'espoir. Alors à lire, Albert Ladouceur, Déjoué par le cancer, et c'est tout le temps que nous avons. Merci Normand Baillargeon, merci Suzanne Vida. Au revoir, au plaisir, à bientôt. Et puis merci aussi à Isabelle Falardeau. Je n'ai plus que quelques secondes pour vous souhaiter une belle semaine, de belles lectures. Et à la semaine prochaine. Merci Jean-Sébastien Laliberté.